mon nom, donc Yves Le Troisdac. Ici, c'est un diminutif que j'ai récupéré assez vite puisque mon père s'appelait Yves également. Et je suis né en 1953 à Tréguier, dans une famille de cultivateurs, de petits cultivateurs. Mes parents tenaient une ferme, une petite ferme comme ça existait à l'époque, au bourg de Minier-Tréguier où j'ai vécu toute mon enfance. Dans un univers bretonnant, mais où la transmission du breton aux enfants, notamment, avait été laissée de côté au profit du français. Le rapport avec le patrimoine oral, en fait, la rencontre s'est faite dans les années 70, quand j'avais autour de 20 ans. Et il y a eu plusieurs facteurs qui ont déclenché mon intérêt. Il y a eu une présence de plus en plus importante de... pour la première fois, on va dire, de la musique bretonne et du chant breton dans les médias. Au début des années 70, il y a eu le phénomène Alan Stivell, qui a entraîné à sa suite pas mal de créations de groupes, etc., qui jouaient de la musique bretonne. Et il y a eu des prestations assez remarquées aussi des sœurs Guadec à l'Olympia en début des années 70. Il y a eu des phénomènes comme ça qui ont fait que ce qui était un peu caché avant passait sur le devant de la scène, on va dire. Et puis il y avait un autre phénomène qui a été la diffusion des fest-noz à travers toute la Bretagne. Ça avait déjà démarré dans les années 60, c'est un mouvement qui était assez ancien, mais qui était resté, concentré en centre-Bretagne, et c'était un mouvement qui était quand même au début plutôt initié et par le mouvement des cercles celtiques du centre-Bretagne, on va dire, grossièrement. Et petit à petit, dans les années 70, l'organisation de fest-noz a été prise en charge par d'autres associations, et ça s'est diffusé un peu partout en Bretagne. Et quand on était jeunes, ce qu'on aimait, c'était plutôt aller au fest-noz qu'aller au bal, par exemple. Et c'était un endroit, c'était une école, quoi, véritablement pour approcher tout ce qui avait trait au patrimoine oral, c'est-à-dire la musique, la danse et le chant également.
Et donc c'est à partir de cette diffusion de plus en plus importante de la culture bretonne que vous vous êtes intéressé au patrimoine oral ?
Au patrimoine oral. Dans le même temps, en 72 exactement, s'est créée l'association Bastum, qui avait été mise en place à l'initiative d'un petit groupe de essentiellement des musiciens, des sonneurs, mais également quelques chanteurs. Et leur objectif était de pallier au manque d'endroits ou de lieux qui rassemblaient les archives sonores concernant le chant, la musique et tout ce qui concernait le patrimoine oral en Bretagne. Et ils étaient partis sur l'idée que les uns et les autres, il y en avait une petite dizaine de personnes qui faisaient déjà de la collecte, c'est-à-dire qui allaient voir des vieilles personnes dans leur famille, des voisins, et qui avaient été voir aussi justement des chanteurs ou des musiciens qui se produisaient dans les fest-noz en question, dans les bals bretons, hein, et qui jouaient de la musique bretonne pour faire danser, ou qui chantaient pour faire danser. Ils étaient allés voir ces personnes-là pour enregistrer leur répertoire, les enregistrer en situation lors des fêtes noces, mais aussi chez eux. Et donc, ils avaient chacun individuellement un certain nombre de collectes qu'ils avaient rassemblées pour leurs besoins propres, enfin pour leur pour acquérir eux-mêmes du répertoire, améliorer leur répertoire, si c'était sonneur, améliorer leur répertoire de sonneur, de biniou et de bombarde, ou s'ils étaient chanteurs, bah, améliorer leur répertoire de chant. Et l'idée de Dastum, ben, ça a été de se regrouper pour dire, ben, on va recopier nos enregistrements dans un pot commun qui sera accessible à tous, à nous tous, créateurs de Dastum, mais aussi aux personnes de l'extérieur qui le souhaiteront. Et donc, dans les années 70, Patrick Malrieux, qui était le créateur, le président de l'association, abordait des jeunes dans les Fesnos, au coin du bar, en leur présentant l'association. Il avait un petit flyer aussi à l'époque, bon, avec des moyens du bord. Il avait fait une petite feuille renéotée qu'il distribuait aux uns et aux autres en expliquant ce qu'il faisait et comme quoi il était urgent de faire quelque chose, et tous, autant qu'on était, on pouvait faire quelque chose autour de chez nous. C'était une association qui commençait à être visitée par pas mal de jeunes sonneurs, musiciens, chanteurs, qui souhaitaient apprendre de nouveaux airs, acquérir du répertoire. Et j'avais des copains, donc sonneurs par exemple, qui étaient allés chez Patrick Malrieux, là où était le siège de l'association, pour écouter des bandes et recopier sur des cassettes ce qui les intéressait.
Ok.
C'était le principe de fonctionnement de la structure. Et donc, finalement, à la fin des années 70, en 78, j'ai franchi franchi le pas, quoi. Je me suis moi-même dit, je vais essayer de rassembler des choses autour de chez moi. J'ai commencé à aller voir des gens de mon entourage. J'ai pris des renseignements auprès de mon père qui était bien implanté localement, qui connaissait beaucoup de gens et qui s'intéressait aussi à ça, qui me disait, tiens, tu devrais aller voir un tel ou une telle. Petit à petit, j'ai été voir une, puis deux, puis trois, puis cinq personnes. Et puis, avec ces cinq personnes-là, avec chacune d'entre elles, j'ai eu deux, trois, quatre noms, quelquefois un seul nom pour me dire, en me disant, je ne sais pas si il ou elle connaît toujours, ou connaît encore des chansons, ou des histoires, ou des contes, peut-être. Et donc, il fallait que j'aille vérifier si c'était vrai, en allant les voir, quelquefois, je tombais pas très bien, c'était pas le cas. D'autres fois, j'avais plus de chance. Et petit à petit, j'ai rassemblé un certain nombre de collectes, essentiellement tournées autour de... Enfin, bon, c'était déjà des collectes en langue bretonne, et tout ce répertoire-là était porté par des gens qui étaient bretonnants. Et donc, je me suis mis aussi sérieusement à l'apprentissage de la langue bretonne. Parce que je l'avais dans l'oreille, mais c'était pas la langue qui était parlée à la maison, quoi, principalement. C'était la langue des anciens, mon père la parlait, ma mère la parlait, les voisins la parlaient, mais quand ils s'adressaient à un enfant, ils s'adressaient en français. Mais d'une certaine manière, tout ce mouvement-là, la création des écoles, l'aventure du collectage dans les années 70, c'est tout un mouvement, ça a participé à un même mouvement, d'une certaine manière, qui était très présent chez les jeunes générations, les personnes qui avaient une vingtaine d'années, une trentaine d'années à l'époque, et qui sentaient que si rien n'était fait, toute cette richesse-là, tout ce qui avait trait, bon, la transmission de la langue, la transmission de tout le patrimoine oral, la musique, la danse, le chant, les contes et tout ça, tout ce qui faisait la richesse de ce patrimoine oral-là était en train de disparaître avec les anciennes générations. Et donc, s'il n'y avait pas un mouvement important de réappropriation de tout ce patrimoine, de tout ce patrimoine oral, ben, ça disparaîtra jamais. La majorité des collectages sonores qui ont été faits à Destume sont quand même des collectages des années 70 et années suivantes. Auparavant, alors depuis, je dirais, la création de Bastume, petit à petit l'association a grossi, s'est étoffée, a d'une certaine manière couvert tout le territoire de la Bretagne historique, hein, parce que c'est parti au départ d'un petit mouvement où il y avait surtout un groupe de personnes qui avaient amené des collectages plutôt du terroir vannetais, bretonnant et du centre Bretagne, on va dire, hein, pour caricaturer un peu à gros traits. Mais ce mouvement a fait tache d'huile sur toute la Bretagne historique. Et Dastum a rassemblé tous les collectages concernant le patrimoine oral des 5 départements bretons. Et aujourd'hui, on a des collectages très anciens qui ont rejoint cette base de données, mais qui ont été agglomérés petit à petit au fil des années, quoi, au fil des rencontres et des recherches qui ont été faites à droite et à gauche. Il y a eu quelques collectes comme ça, un peu à caractère historique, qui ont rejoint les premiers collectages de la première équipe de collecteurs. Alors, l'association, il y avait trois mots-clés au départ de l'association, c'était collecter, sauvegarder, transmettre. C'était un peu les trois missions que l'association s'était données. Et donc, collecter, c'était inciter des personnes individuelles, bénévoles, à collecter près de chez eux. Près de chez elles. La deuxième mission, ben, c'était la mission à proprement parler de Dastum et de son équipe, c'était de sauvegarder ce qui lui était transmis. Au départ, c'était sur des bandes magnétiques et des cassettes. Et petit à petit, ben, c'est devenu c'est des serveurs, ce sont des serveurs, aujourd'hui tout est numérisé. C'est une autre échelle, mais c'est une échelle très importante également. C'est une mission très importante de l'association. Et le troisième volet, transmettre, ben, ça a été dès le début, Destume a cherché à diffuser ce patrimoine, à le faire connaître. En éditant, au début c'était des vinyles accompagnés de livrets, puis ça a été après des cassettes accompagnées de livrets, puis des CD accompagnés de livrets, et un certain nombre d'ouvrages également, de livres, ont été publiés par l'association. Donc il y a un volet très important de diffusion et d'édition à Dastum.
Selon vous, quelles seraient les perspectives d'avenir du patrimoine oral et du patrimoine sonore en général?
Moi, j'ai l'impression, enfin, ça c'est mon sentiment,
Allez-y.
que tant qu'il y aura des personnes qui auront du plaisir à partager ce patrimoine avec des personnes qui auront du plaisir à l'entendre, à le recevoir. Bon, ce patrimoine a de l'avenir, quoi. C'est en fait, c'est guère que c'est la relation de plaisir qu'on a à le partager qui fera que ça existera ou pas, quoi.
Ok.
Le jour où plus personne. Ça me fera rêver, où ça ne fera sourire plus personne, ça ne donnera du plaisir à personne d'entendre ces choses-là, ben ça disparaîtra. Mais je pense qu'il y a toujours du monde à avoir plaisir à le partager.